Surpris par la nuit.
Feuilleton Dogon, quatrième et dernière partie. Une émission d'Antonin Potoski, réalisée par Pierre Villers. Une vieille est morte, sur une place, devant les villageois qui assistaient aux funérailles, assis ou debout sur des rochers. Ses amis, des vieilles femmes, sortaient par deux du petit groupe qu'elle constituait et s'approchaient en dansant des tambours qui jouaient pour la défunte dont le corps, déjà déposé dans une grotte de la falaise, était représenté par des couvertures et des pagnes roulées posées sur le sol. Certaines femmes avaient un petit panier à la main qu'elles envoyaient en l'air au terme de leur danse. Celle-ci durait quelques secondes seulement. C'était très loin des tam-tams de l'Afrique forestière. Ces femmes dansaient moins qu'elles n'esquissaient des gestes de danse, un souvenir de danse en accord avec le souvenir de leur ami. Penchées en avant, les pas au rythme lent des tambours, elles ouvraient et refermaient leurs bras deux fois, comme un battement d'ailes au ralenti, avant de regagner leur petit groupe. Elles paraissaient légères, tournées vers la plaine. On avait l'impression qu'elles voulaient voler avec leurs bras flétris. Certains hommes portaient le rouleau de couverture molle en dansant, tandis que d'autres tiraient des coups de feu avec leurs fusils fabriqués au village, bourrés de poudre. Les coups partaient dans un nuage de fumée et de flammes. Tout à coup, Paul a crié « Attention, il y a le miel !» Et dans une panique générale, nous avons fui sans nous retourner. Le miel ? C'était une ruche d'abeilles logée dans un gros baobab que les tambours et les coups de feu avaient dérangé. Les abeilles étaient sorties et poursuivaient les villageois. Paul m'a dit qu'elles attaquaient surtout ceux qui avaient touché la pommade. Il suffisait qu'un homme fasse un geste brusque pour que la panique s'empare de tous et qu'on fuit un peu plus avant dans les ruelles où nous nous étions réfugiés au-dessus de la place. Les musiciens qui ont osé, après un long moment, relancer la musique ont été les plus piqués. La pommade, c'était le parfum que certains avaient mis pour la fête.
Public de Tirelli, les vraies funérailles traditionnelles avec les tiges de mil qui se consument dans le dos de la foule. On ne voit que des dos, les gens qui chantent, et on va essayer de se faufiler dans la foule pour apercevoir les danseurs et les joueurs de tambour de l'autre côté. On ne voit que les dos qui sont éclairés par les tiges de mil en flammes. Bonsoir, va bien?
Là, c'est ici les places publiques pour danser tout le monde ici à Pays Dogon. Et les Tirelli, les funérailles, pour faire des funérailles ici et Tirelli.
Un homme qui vient de s'emparer de tiges de mil en flammes et qui a élargi le cercle, il est rentré dans le cercle de la foule et qu'il a élargi en menaçant de les brûler avec les tiges de mil. Il a fait Il a fouetté la foule avec ses tiges de mille en flammes, donc le cercle vient de s'élargir parce qu'il se resserre petit à petit autour des danseurs. En fait, cette danse, c'est vraiment une alternance de moments où les tiges sont en flammes et on voit le visage des gens. Et en fait, ça ne dure que quelques secondes et tout retombe dans l'obscurité. Et là, la danse repart encore plus fort avec les danseuses et les danseurs ont des sifflets dans la bouche. Et en fait, c'est le rythme de sifflet qu'on entend, c'est leur respiration qui souffle ça en même temps que leur mouvement. Et en fait, cette danse, c'est seulement pour prévenir les gens du décès de cette dame. La date des funérailles sera fixée plus tard. C'est seulement pour prévenir le village entier et fêter le départ de cette dame.
Je crois que c'est 98, l'année de 1998. Un jour, Antonin m'appelle par téléphone. Et il me dit, tu viens, tu sais où j'habite, et j'habite à Mali, et tu viens chez moi. Et c'est magnifique ici. Avec cette phrase, j'ai décidé de venir à Mali, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passe après.
Je me souviens de Kimiko Yoshida, descendant de l'avion toute blanche et tremblante.
L'époque, c'est vrai que je viens d'arriver en France et c'était déjà une grande chose pour moi et de quitter mon pays, le Japon. Et je ne connaissais pas, je ne voyageais pas beaucoup, je ne connaissais pas le monde. Et déjà, pour partir ce voyage, j'étais obligée d'aller chez le médecin pour faire les vaccinations, etc. C'était beaucoup de choses à faire. Ça me fait un petit peu commencer à trembler et je ne sais pas comment faire. Est-ce que ce pays il est dangereux? Mais je n'ai aucune information pour ce pays et j'avais peur. Et le jour de départ, j'arrive à l'aéroport de Orly. J'ai vu une immense tache de noir. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et des bruits que je n'ai jamais entendus en France, et ni le Japon. Et c'était une panique qui m'arrivait. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était des Africaines qui sont en train de préparer leur départ avec beaucoup de valises chargées. Mais c'était 300, 400 et 500 Africaines. Une fois, une petite l'entrée de la porte de l'aéroport, j'étais tellement peur que je réalise première fois de toute ma vie que je suis blanc. Et je me suis dit, est-ce que je peux arriver l'état comme ça en Afrique?
Et vous avez traversé le Mali en car avec une chambre photographique énorme?
Oui, je travaille avec une grande chambre 20-25. Donc la taille, c'est une grande valise roulette. Et aussi, elle pèse 20 kilos. Elle est en bois, elle a trois objectifs. Et puis, ce n'est pas une pellicule, c'est une planche de film. Donc, je suis obligée d'apporter des châssis pour recharger des films. Donc, la totalité de valise, c'est vrai que c'est plus de 20 kilos, 25 kilos. Et puis, je ne savais pas du tout où je peux arriver. Depuis, je suis arrivée au Pays d'Ogo. Et je commence à réaliser qu'est-ce que c'est, mais Antonin ne m'a rien dit. Et même pas, il faut que je marche la falaise pendant une demi-journée. Et en plus, la falaise, c'est vrai que c'est très très beau. Et il y a des pierres, tranches de pierres qu'on voit. Il y a un petit peu de vert, des arbres quelque part. Mais c'est vrai que c'était la saison de pluie aussi. C'était chaud, c'était humide. Et puis, il n'y a rien. Et puis, le soleil était tellement, tellement fort. Et même, j'ai un chapeau. Mais là, c'est le soleil qui tape en travers de chapeau encore plus fort. Puis j'avais soif, j'étais tellement chargée. Et je ne sais pas quand est-ce que je peux arriver. C'était le voyage, on peut dire, le départ de paradis ou via l'enfer.
La première nuit à Bamako, vous êtes arrivée la nuit. Et vous n'avez découvert la ville que le lendemain matin. Alors toute la nuit, vous l'avez imaginée.
En arrivant à Bamako, c'est la seule chose pour moi, quelque chose à savoir, c'était que des bruits qui me donnent des informations. J'avais aucun savoir sur la culture africaine, ni Bamako. Et Anna, c'était tout noir et je suis arrivée par la petite avion et c'était 2h matin et je ne sais pas comment je peux passer là-devant et tout ça, mais j'ai retrouvé Antonin à loin. Je me suis dit, c'était vraiment, ça m'a détendue, mais en même temps que j'ai repris la nouvelle tension et comment je peux continuer de vivre dans ce voyage. Antonin me rapproche, je me rappelle bien, et j'ai failli pleurer. Et comme ça, j'y arrivais par la voiture petit à petit, et dans une chambre de son palais. Et la nuit, on m'a donné une chambre, je me suis lavée, je me suis rentrée dans le lit. Et tout d'un coup, il y a énormément de bruit qui passe. C'était la pluie. Ce que je me rappelle, c'était la dernière pluie de cette saison que j'ai eue. Mais c'était plus fort que cascade. C'est le plus fort que... Je ne sais pas, je suis tapée par les jugements de l'enfer. Je ne sais pas, c'était tellement quelque chose. Ce bruit qui m'a divisée dans deux univers où j'étais.
La pluie sur la tôle du toit. Hein, oui, c'est... Oui.
Après ce bruit... Et je me suis dormie quand même, j'ai compris que c'était la pluie. Et le matin, très très tôt, et j'ai entendu une grande voix d'un homme qui est une sorte de prière, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Mais c'était tellement tellement beau, mais ça m'a apporté, sa voix est tellement tellement loin, et c'était pour moi, c'était quelque chose qui me ressemblait à une prière de bouddhisme au temple quand depuis j'étais petit, et le moine qui appuyait et chaque cérémonie, c'était un peu ça, parce que la voix était traînée longue pour dire un mot assez long, je sais pas comment expliquer, mais c'était ça.
Je regarde le livre qui est paru chez Actes Sud, Marry Me, et je vois que vous êtes devenue noire.
Je crois que ce voyage m'a beaucoup influé de me donner un désir, et soit une transformation sur mon corps pour devenir une africaine, ou bien transformation pour rentrer dans la culture africaine, parce que j'ai porté beaucoup de coiffes africaines, y compris une masque de Dogon. Mais ce travail n'est pas du tout facile parce que je sais que, par exemple, dans le masque de Dogon, l'époque, à l'arrière intérieur du masque, on mettait la terre. Et dans la terre, on mettait des insectes. Des insectes qui piquent sur la peau pour exciter l'état de la fête. Mais ce masque, je crois que c'était porté par un homme. Et moi, je suis une femme, je porte sur moi. Et c'est aussi un sens de mariage dont j'ai créé dans ma série Marry Me.
C'est un masque recouvert de kauri. Il y a une sorte de bonnet phrygien marron, sombre, et toute la face du visage est couverte de kauri blanc, de coquillages blancs, avec deux petits trous ronds seulement pour vos yeux qui regardent l'objectif.
Mes yeux, quand on voit mes yeux, elle est tellement, tellement dure pour moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'apparitions de mon corps. Souvent, mon travail, soit la peau de corps, la figure de corps, ou bien les yeux, ou bien la figure de bouche qui exprime quelque chose, les sentiments, la notion, et plein de choses. Mais c'est là, c'est les yeux qui est vraiment. C'est une résister contre quelque chose. Ça m'a donné une force d'être dans le masque de Dogon. C'était plus difficile d'être photographié avec ce masque.
On arrive chez Tidiane à la tombée de la nuit, en plein cœur du Sahel. On porte ma valise et mon carton d'eau dans la pièce obscure d'une case. Pendant qu'on se repose sur une natte et que les amis viennent nous saluer, on entend le bruit d'un balai et on sent la poussière qui passe la porte d'une autre case qu'on nettoie pour nous. Le ciel est plein d'étoiles, beau comme si la lune n'avait jamais existé. Des petites filles à qui on a donné une natte pour qu'elles ne nous entourent pas de trop près entonnent une comptine répétitive, à moitié chantée, à moitié chuchotée. Je suis allongé sur le dos et je regarde les étoiles. Notre groupe grossit et se serre sur la natte jusqu'à ce que nous formions une masse compacte. Le corps se trouve alors séparé en plusieurs parties lointaines. Une de mes mains se fait masser mollement, l'autre est enlacée avec une main étrangère. Par derrière, on me touche les cheveux. J'ai la tête renversée sur des cuisses et quelqu'un, de l'autre côté de la natte, presque au bout du monde, par-delà d'autres corps, me caresse les doigts de pied à travers la chaussette. Je suis fatigué par le voyage. Je ne comprends pas la langue que les hommes parlent, mais comme je suis collé à eux, leurs paroles font vibrer l'intérieur de mon corps, et je les ressens comme si c'était moi qui parlais.
En passant ma vie entre l'Asie et l'Afrique, je souffre de ne jamais pouvoir partager les émotions que je vis de part et d'autre, c'est-à-dire que j'ai des émotions d'une part avec les amis en Afrique et d'autre part avec les amis au Japon. Et vous êtes la première personne qui m'avait offert le retour de ces émotions croisées.
En fait, l'époque, je n'étais pas encore habituée en France non plus. Et je viens d'arriver en France et je crois que mon état psychologique était assez dur, toujours comprendre, pour lutter par rapport à la culture de l'autre et la mienne. Quand je suis arrivée au pays d'Ogon, ils sont tellement, tellement gentils. Ils me demandaient qu'est-ce que je voulais. Et puis, quand ils se voient, ils se saluaient. Est-ce que ton père va bien? Est-ce que ta mère va bien? Est-ce que ton frère va bien? Et des choses, la relation familiale et aussi la relation sociale de ce petit village. Ils sont tellement bien alignés, construits. Et la relation était très familiale avec tout le monde. C'était très, très près de ma famille japonaise et puis aussi autour de la famille. Et souvent, on dit « ton papa va bien, ta tata bien », et des choses comme ça. Et puis, ils sont aussi très, très doux. Je n'ai jamais vu qu'ils sont fâchés, je n'ai jamais vu que, mais peut-être j'étais touriste, donc ils ne montrent pas comme ça, mais c'était calme, et il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de stress, parce que le stress que j'ai, surtout j'ai appris en France, et donc j'étais quelque part, je me suis retrouvée le pays de mon cœur, chez Dogon. Et quand j'ai quitté chez Dogon, j'ai pleuré parce que ça m'a attiré énormément dans cet univers de tranquillité, cet univers de affection. Donc C'est ça que ça me fait tellement du bien de retrouver mon pays, le Japon, chez le pays d'Ogon.
Alors, vous avez marché pendant plusieurs jours à